Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Et nous d'ailleurs, nous y sommes, on a de la chance. On vous parle dans notre studio au pied du cours Philippe Châtrier. Alors aujourd'hui Mélanie, qu'est-ce qu'on a concocté pour nos auditeurs?
Alors d'abord voici le programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1. On les retrouvera à 11h45. Aujourd'hui, dans le duo, il y aura Édouard Dutour. Il a chaussé les baskets ce matin pour aller enquêter sur des bienfaits du sport dont on ne parle jamais, les vertus du sport sur notre cerveau. Et oui, en plus de tonifier nos muscles, se bouger pourrait nous rendre plus intelligents, rien que ça. Et puis, on terminera avec la chronique beauté de Maud Ravier. Elle va nous donner ses meilleurs conseils pour rester frais, fraîche et soignée, même quand on fait du sport en plein air.
Alors justement, c'est une émission très sportive que nous allons proposer aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. D'ailleurs, si vous faites du sport, vous qui nous écoutez, c'est déjà un bon début. Mais peut-être que, comme moi, malgré des heures à vous dépenser, vous faites le constat que c'est comme si vous n'aviez rien fait. Car être sportif, en fait, ça se joue sur le long terme et pas sur les 3 mois de salle de gym dans l'année. D'ailleurs, il n'y a pas que le sport. Hein. L'alimentation, le sommeil ont aussi une importance cruciale dans cette histoire. On va donc vous donner nos meilleurs conseils pour enfin optimiser vos efforts. Et on démarre le coaching tout de suite, juste après le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément.
Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Oui, c'est Clément, le coach sportif, mais surtout Clément, le nutritionniste, car c'est mon troisième métier, ça j'en ai très peu parlé. Et je vous propose, comme cette semaine, puisqu'on est à quelques mètres du central de Roland-Garros, un jeu, un quiz. Ah. Vous allez encore une fois vous affronter. Je pense qu'encore une fois, Mélanie va gagner. Mais bon, la règle du jeu est très simple. Je vous donne à chaque fois des plats à quantité exacte. Quel est le plus calorique ou le moins calorique vous devez trouver? On le fait comme au tennis.
On est bonne dans ce sujet-là, attention.
Eh ben, on va voir, il y aura peut-être match nul. Qui veut commencer à servir?
Moi.
C'est parti, on y va, attention. Qu'est-ce qui est donc, à chaque fois la même question, qu'est-ce qui est le moins calorique? Si on met la même chose, le même poids dans l'assiette, attention, brocoli ou aubergine?
Brocoli.
Eh ben, c'était aubergine pour 100 grammes. 17 calories contre 22. Ben, non, mais c'est.
Ça, c'est Julia qui joue pour l'instant. Moi, je joue pas.
Hein. Elle m'a dit aubergine.
Zéro. Eh ben, faut pas écouter l'adversaire. S'il vous dit qu'il va faire un revers, il va faire un coup droit. Attention. Ben, Mélanie, vous pouvez prendre l'avantage. Courgette ou concombre? Le moins calorique.
Le moins calorique, c'est le concombre.
15-0 pour Mélanie. Attention. Julia, vous êtes au service. On y retourne. Si je vous dis framboise ou kiwi?
Facile.
Eh ben, c'est framboise le moins calorique.
Eh ben, c'est une bonne réponse. Ouais. 15A, égalité. Attention, petit piège, ketchup ou mayo?
Oh ben, le plus calorique, c'est la mayo.
C'est la mayo. 30-15, attention, on y est. Si je prends 6 nuggets ou 6 makis? Makis classiques avec...
C'est quoi?
Des makis.
Oui, ou des...
6 nuggets.
Nuggets. C'est les makis les moins.
Oui.
Moi les makis, eh ben non, les nuggets sont les moins caloriques.
Ah, on ça dit dans le makis. Ouais.
Attention, peut-être 40 points et peut-être une balle de match au bout. Ouais. Mélanie, croissant au beurre ou pain au chocolat, ou chocolatine selon la région, qu'est-ce qui est le moins calorique?
Ah bah la chocolatine.
La chocolatine est plus calorique, ça ne marche pas, attention.
Oh là 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 là.
Peut-être un retour, on est toujours à 30-15. On y va avec Julia au service, silence s'il vous plaît sur le cours central. Si je vous dis, oh ça, elle va connaître à mon avis, un verre de rosé ou un verre de coca, qu'est-ce qui est le moins calorique?
Eh ben moi, un verre de coca.
Non, c'est pas toi qui joues, c'est moi.
Ah pardon.
Eh ben c'est un verre de coca.
C'est un verre de coca. Eh bien c'est une bonne réponse pour l'instant. Vous êtes à égalité. Le dernier point maintenant, attention. Il est pour Mélanie. Attention, la raclette ou un kebab. Si on met la même quantité dans
l'assiette. Ah génial.
Qu'est-ce qui est le moins calorique?
Facile, là. Oh, la raclette est plus calorique.
La raclette. Eh ben c'est une victoire. Bravo.
Ouais.
Jeu 7.
Mais non, 40-30.
Eh ben oui, mais le match s'arrête là.
Parce non.
Parce qu'il pleut sur le central. Voilà.
Merci beaucoup Clément.
Merci.
Merci Clément. Nous, allez, maintenant on va donner la parole à notre invité. C'est vous, docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition et auteur du livre Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé. C'est paru aux éditions Erol. Vous venez donc de lancer un nouveau concept, la Napsothérapie. Et vous le dites dès le début de votre livre, pour être un sportif, amateur ou de haut niveau, il faut savoir bouger et bien manger et bien dormir. Car si l'un de ces trois piliers fléchit, tout s'écroule, c'est bien ça?
Ah oui, absolument. On a trop tendance à oublier le sommeil dans l'histoire. On parle toujours d'alimentation, on parle d'activité physique au service de la santé, mais on oublie le sommeil. Et pourtant, c'est le cerveau qui dirige nos comportements de vie, nos comportements alimentaires. Ce qui fait qu'au final, c'est très difficile d'être en vraiment bonne santé, même si on mange bien et même si on bouge. D'être en bonne santé si on ne dort pas bien. Donc il est fondamental de s'intéresser même en premier à la qualité du sommeil.
Alors Laurence, sans vouloir culpabiliser personne, je crois que vous faites le constat quand même que les Français sont pas forcément de grands sportifs. Pourquoi c'est si difficile de nous faire bouger au quotidien? On se trouve trop d'excuses peut-être?
Non, ce ne sont pas les excuses, c'est qu'on vit à une époque où tout est fait pour inciter à la sédentarité. D'abord, il y a une émergence des métiers sédentaires, par exemple l'informatique. Mmh. Ensuite, c'est très mal vu en France de quitter son travail à 17h, 17h30 pour s'occuper de soi après, alors qu'il y a d'autres pays pour
se valoriser même.
Absolument, hein, ouais. Au contraire, c'est la preuve qu'on s'organise bien dans sa vie et qu'on prend soin de soi. Bon, en France, c'est une honte, donc les gens rentrent tard chez eux et n'ont plus le temps pour s'occuper d'eux. Et puis, chez soi, il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux, ce qui fait que même les enfants, les adolescents et les adultes, bien sûr, se couchent beaucoup plus tard, souvent à 1h du matin, alors qu'ils devraient être au lit 2-3 heures avant.
Pourtant, il n'y a que des bienfaits pour la santé à faire du sport régulièrement. On sait par exemple que plus on fait de sport et plus on vit longtemps et en forme. Mais tous ces bienfaits, on les obtient à partir de quelle quantité de sport par jour? J'imagine que ça va dépendre aussi de notre âge, non?
Oui, alors, il faut distinguer sport et activité physique. L'activité physique, c'est le fait de bouger.
Oui.
Donc là, il faudrait bouger au moins 1 heure par jour. Ce n'est pas grand-chose demander quand même.
Marcher, voilà. Faire du rangement chez soi, c'est ça bouger?
Monter les escaliers.
D'accord.
Voilà, il faudrait toutes les heures se lever 5 minutes et être en mouvement.
Ok.
Voilà. Pour arriver à au moins 1 heure en
ça,
une
ça va,
fois.
Non, les Français y arrivent quand même à bouger. Mais
non. Ah non, non, même non. Pas. Non, ce sont les fameux 10 000 pas par jour. Mais en moyenne, les gens sont entre 3 000 et 5 000.
Il paraît qu'à 6 000, 7 000, déjà, c'est pas mal, Laurence.
Oui, l'idée. Bon,
elle se trouve des excuses, elle aussi. Hein.
Mais en plus de ça, il faut rajouter l'activité sportive, qui a un début et une fin et un objectif. Donc là, c'est 2-3 fois par semaine, mais en fonction. Alors, vous parliez de l'âge,
bah
c'est
oui.
Vrai, mais c'est pas tellement en durée, parce que plus on avance en âge, plus on a du temps pour s'occuper de soi, au contraire. Mm-hmm. C'est plutôt en termes d'intensité. C'est évident que quand on fait un sport à 60 ans, on va pas y mettre la même intensité qu'à 20 ans. Mais l'essentiel, c'est de bouger. Voilà.
Ok, on a bien retenu. Et même si on bouge pas comme les joueurs ici à Roland-Garros, c'est pas grave. Je veux dire, même si je fais 3 fois 1 heure de yoga par semaine, ça suffit, c'est du sport. Ça.
Alors, le yoga. Oh oui, on pourrait dire...
Du renforcement musculaire, en tout cas.
Non, pas tellement du renforcement musculaire. C'est de l'assouplissement articulaire, c'est de la concentration aussi sur soi.
Vous voyez, ça ne me fait pas beaucoup transpirer, vous voyez.
Non,
donc,
voilà.
Vous courez quand même sur le central,
contre,
là.
C'est très utile. Oui. Mais c'est à compléter par vraiment du sport. De
du
la
cardio.
Du tennis, de la muscu. Tout est complémentaire et tout est utile. Les arts martiaux sont très utiles aussi.
On va peut-être se mettre à ça, tiens, les arts martiaux, Julia, ça nous irait bien.
Je fais de la boxe et j'adore.
Mais c'est très
boxe
bien, la danse.
Tac, un kick par-ci.
Là, il y a un mélange de sport et de travail, de la souplesse articulaire et aussi. Ouais. C'est très complet, la danse.
Merci à vous, docteur Plumet. On a fait une petite intro sur notre sujet du jour. On va poursuivre dans quelques minutes comment optimiser au maximum notre pratique sportive pour voir véritablement un résultat, à la fois sur notre musculature et peut-être même sur notre silhouette. On va vous donner nos astuces pour y parvenir dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et ce matin on parle de sport dans Bienfait pour vous. Il faut dire qu'on ne manque pas d'inspiration ici dans notre studio au cœur du tournoi de Roland-Garros. Et vous savez quoi? Pour être un vrai sportif, efficace, il ne suffit pas de bouger et ce n'est pas notre invité qui va nous contredire. Docteur Laurence Plumet, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et que vous venez de publier ce livre Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé paru aux éditions Erol. On continue notre émission sur les secrets des sportifs avec vous, donc, et une approche vraiment tout à fait différente, puisque vous dites qu'on doit manger, il faut manger différemment selon qu'on fait du sport ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'après ma séance de sport ou avant, d'ailleurs, qu'est-ce que je dois manger?
Le muscle utilise comme carburant le glucose. Bon. Et qu'est-ce qui fournit du glucose? C'est les féculents, les féculents, le pain, les céréales, et également le sucre et les produits sucrés.
Bon, tout ça, c'est donc, dans les frites, donc on a qu'à se nourrir l'essentiel.
Quand on fait du sport... Et si on veut contrôler son poids quand même, eh bien, avant et après le match, il faut avoir une alimentation hyperglucidique. Ça veut dire une bonne assiette de pâtes avec la viande ou le poisson et les légumes, un peu de pain également, un dessert qui peut être potentiellement un peu sucré ou un bon fruit de saison.
D'accord.
Et on fait ça, alors, dans les jours qui précèdent, toujours une alimentation hyperglucidique. Faut pas avoir peur de manger des pâtes, al dente, parce qu'elles diffusent très lentement leur glucose. Et puis ensuite, en récupération après le match. Là, je parle surtout pour des gens qui font de la compétition. Sinon, alors, vous mangez.
C'est plutôt pour Djokovic que pour vous.
C'est ça, pour moi, en fait. Vous mangez de tout équilibré pour surtout pas avoir de carence.
J'ai entendu parler d'un truc, mais je saurais pas le redire, comme une fenêtre, là, de 30 minutes où après avoir fait du sport, on peut manger à peu près ce qu'on veut. C'est vrai, ça, ou pas?
Alors.
Je crois que c'est sa copine qui lui a raconté ça.
Dans les 30 minutes qui suivent l'effort, en fait, ce sont les protéines surtout. Parce que pendant l'effort, les muscles ont souffert. Et donc juste après, c'est un peu comme une plante qui a soif. Juste après, quand on consomme des protéines, donc sous forme de whey, qui sont des protéines de lactosérum qui passent très vite dans le sang.
De whey
très vite. Ça s'appelle la whey. Ah, c'est le terme anglais qui définit protéines de lactosérum. Ça vient du lait.
D'accord, ouais.
Ce sont des protéines qui passent très vite dans le sang, qui sont très vite captées par les muscles.
Et c'est quoi comme aliment, ça
du C'est de la poudre.
Ah, qui c'est vendu d'ailleurs. C'est ce qu'on voit chez les bodybuilders.
Mais si, voilà, c'est ça. Pour ceux qui veulent augmenter leur masse musculaire ou bien la préserver, eh bien, ils font ça dans les 30 minutes ou dans l'heure qui suit la pratique sportive. Alors, on peut faire tout aussi bien sans pour autant prendre cette poudre. On peut aussi, quand on rentre chez soi, exactement, manger des œufs ou boire du lait.
Un blanc de dinde.
Oui, ou boire du lait, ou manger un yaourt, ou alors manger au repas suivant, à la fois des féculents avec les légumes pour ressourcer les muscles en glycogène, mais également de la viande, du poisson ou des œufs, et un produit laitier pour apporter des protéines.
C'est pas dangereux ces produits-là, là, le whey, il y a aussi le BCAA, alors, on voit toutes ces poudres justement.
Oui.
Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est chimique et que ça va pas être forcément bon pour mon organisme.
Non, c'est pas chimique parce que c'est extrait des aliments.
Ah oui, vraiment, alors, donc c'est quand même naturel.
Vous avez raison, on peut avoir toutes sortes de fournisseurs, il faut s'assurer que ce qu'on achète soit certifié AFNOR. Voilà. Et là, on a vraiment du concentré de whey. Et les BCAA, ce sont les acides aminés branchés. Ce sont des acides aminés que les compétiteurs peuvent prendre éventuellement pendant l'effort, car ce sont des protéines qui ont la capacité de se transformer en glucose et de servir de substrat énergétique aux muscles pendant l'effort. Donc, c'est très technique. Ça, c'est vraiment réservé à des champions.
Alors, de manière générale, il faut, on le sait, éviter d'être en carence, et encore plus quand on est sportif, notamment éviter de manquer de magnésium. Pourquoi ça a quoi comme fonction sur nos muscles ?
Alors, quand un muscle est en action, d'abord, il a besoin d'eau, il a besoin de glucose pour l'énergie, il a besoin de vitamines du groupe B, il a besoin de magnésium, de calcium et de potassium. Donc, vous avez raison de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de carence, déjà. D'accord. Ça, c'est le béaba de tout sportif, qu'il soit compétiteur ou du dimanche. Pas de carence, donc 3 repas par jour, on mange de tout.
Et ce magnésium, alors justement,
alors,
on le trouve
magnésium,
où, dans quoi ?
C'est assez rare d'en manquer, parce que ça se trouve justement dans ce que les sportifs mangent. Dans les féculents, dans les céréales complètes, dans les légumes, dans le chocolat,
il y en a un peu partout,
et dans certaines eaux.
Voilà. On peut se complémenter si on
mais
a un
si
doute.
Mais si jamais, effectivement, on manque de magnésium, encore qu'on n'a aucun critère biologique pour le savoir, on peut se dire, tiens, peut-être que je manque de magnésium parce que j'ai souvent des crampes.
On disait la paupière qui tremble.
Voilà, si la paupière qui tremble, mais surtout des crampes. On a l'impression qu'on est fatigué aussi. Finalement, ça ne coûte rien de faire une petite cure de magnésium. On prend du magnésium marin, pas besoin d'ordonnance pour ça. On fait une cure de 200 mg de magnésium par jour pendant un mois. Et si au bout de 15 jours, on voit que c'est mieux, c'était que ça. Si en revanche il n'y a pas de progrès, c'est que ce n'est pas ça.
Vous dites dans le livre qu'il ne faut jamais faire de sport avec un vêtement imperméable. Pourquoi ce conseil ? Quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire depuis ce matin ?
Parce que quand on fait du sport, on développe à l'intérieur de l'énergie qui est utilisée pour produire de la chaleur. C'est l'équivalent d'un fer à repasser en chaleur par heure de sport.
Voyons.
Donc si on ne prend pas garde à porter, à évacuer la sueur, notre température corporelle va monter et va passer de 37-38 à cœur à 40, d'où les chocs thermiques qu'on peut voir chez des marathoniens. Donc, quand on prend un vêtement qui n'est pas respirant, la sueur n'arrive pas à s'évaporer, elle coule sur le corps, donc cette énergie n'est pas évacuée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on court ou quand on pratique, il faut un vêtement transpirant. Il faut que la sueur s'évacue. Voilà, donc il faut un vêtement respirant.
Eh bien, merci beaucoup, Laurence Plumet. On vous retrouve dans un très court instant, toujours en direct du tournoi de Roland-Garros. D'ailleurs, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, nous voir au pied du cours Philippe Châtrier. À tout de suite sur Europe 1. Ah, il y a une émeute, Mélanie, regardez.
Oui, bonjour.
À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On met le sport à l'honneur aujourd'hui et je peux vous dire que nous sommes en pleine forme pour en parler ici en direct de Roland-Garros dans Europe 1 et la radio officielle. Alors pour nous rendre encore plus performants sportivement, notre coach du jour c'est le docteur Laurence Plumet. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition et autrice du livre Napsothérapie, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. Alors on a parlé de transpiration tout à l'heure et justement c'est l'occasion de rappeler que quand on fait du sport, vous insistez beaucoup là-dessus, il est très important d'avoir toujours sa gourde d'eau avec soi. Qu'est-ce qu'on risque si on ne boit pas assez au final pendant une séance de sport ?
On risque la déshydratation, voilà, tout simplement, c'est-à-dire la chute de tension et le malaise. Parce que quand on fait du sport, on peut perdre de 1 demi-litre à plus d'1 litre par heure. Hein, ça dépend de la sudation de chacun. Bon, donc il faut boire au moins un demi-litre à plus d'un litre par heure. En fait, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire régulièrement, tous les quarts d'heure à peu près, quelques gorgées.
Moi, j'attends la fin de l'heure en général, sinon j'ai l'impression que ça va me peser si je suis en train de faire, je ne sais pas, un footing ou je ne sais quoi. Boire pendant l'effort, vous voyez, c'est un peu compliqué.
Non, l'idéal, c'est vraiment de boire tous les quarts d'heure.
Oui, un petit gorgée, Mélanie. Oui,
voilà. Je ne fais pas beaucoup de footing non plus.
Oui, c'est vrai, j'étais en train de me dire, ça ne doit pas vous arriver souvent. On va voir à présent que plus on a un sommeil de qualité et plus on sera performant en sport. Parce que si on ne dort pas assez, on risque d'abord de ne pas avoir le courage d'aller au sport. Mais aussi, je crois qu'on risque de se blesser plus facilement. C'est bien ça ?
Tout à fait, parce que si on est en manque de sommeil, le cerveau est en stress et la fatigue est là. Donc, premièrement, on n'a pas envie de faire du sport, et de une. Donc, c'est pas bien quand on veut perdre du poids. Et deuxièmement, le corps étant fatigué, il y a un risque augmenté de déchirure musculaire.
Ah, oui.
Donc, et ça, c'est un principe que tous les sportifs connaissent, pour être performant et être bien dans son activité sportive, il faut bien dormir, c'est-à-dire au moins 8 heures par nuit, en se couchant avant minuit.
Et si c'est le cas, qu'on reste pas... Alors, imaginons, je n'arrive pas quand même à me coucher, je respecte pas ces 8 heures par nuit ou 7 heures par nuit. Est-ce que la petite sieste, justement, est-ce que vous pensez que là, les joueurs professionnels ici à Roland-Garros, ils font la sieste, ce sont des adeptes, les sportifs de haut niveau?
Alors, je ne pense pas qu'après un match éprouvant, ils aient envie de dormir. Ils sont plutôt très excités, ils prennent une bonne douche, ensuite ils débriefent, ils mangent, ils boivent et ils se coucheront crevés le
pas trop tard.
À 22h. Mais en général, on n'a pas envie de dormir après.
C'est pour ça qu'on dit de ne pas faire trop tard le soir, d'ailleurs, le sport.
Oui, absolument.
Bah justement, j'ai une question, moi, d'Olivia qui nous a laissé un message au 01 80 20 39 21. Elle demande, est-ce qu'il vaut mieux faire son sport le matin ou le soir pour être plus performant?
Alors, tout dépend des rythmes biologiques de chacun. Il y a les gens du matin et les gens du soir. Quand on se lève tôt le matin et quand on est en pleine forme, c'est le moment idéal pour aller faire son sport. On prend son petit café, son thé, son biscuit, on part courir et au retour, ou faire autre chose, et au retour, on prend son petit déjeuner. C'est idéal d'ailleurs aussi pour perdre du poids, parce qu'on tape très vite dans le gras, puisqu'on a épuisé ses réserves de glucose dans la nuit. En revanche, si on est plutôt du soir, là, il vaut mieux faire son sport en fin d'après-midi, parce qu'on est au mieux de sa forme. Il faut vraiment respecter ses rythmes biologiques, mais en revanche, quand même, il n'est pas bon de faire du sport après 20 heures, parce qu'on envoie un signal contradictoire au cerveau qui, lui, à partir de 22h, se met en mode ça y est, je vais bientôt dormir.
Oui, et puis on va élever sa température corporelle et c'est pas ce qu'on a besoin justement avant de
trouver le sommeil. Exactement, la température baisse et là on l'élève au contraire. Donc les gens sont plutôt énervés. Donc c'est déconseillé de faire du sport après 20h.
Et si on a des horaires pas classiques, hein, comme certains qui travaillent dans des matinales ou qui travaillent de nuit, qui ont des horaires décalés, là vous conseillez de faire la séance de sport à quel moment? Parce que ces gens-là, souvent, ils vont faire une sieste ou ils sont pas dans des horaires comme les nôtres.
Hein. Et là, en fait, ils n'ont pas trop le choix parce que quand on travaille de nuit, le seul moment où on peut récupérer de son sommeil, c'est le matin. C'est le moment où le sommeil est le plus récupérateur. Donc, ils se couchent à 7 heures en rentrant, ils se réveillent à 14-15 heures, ils prennent leur déjeuner, ensuite le sport et ensuite éventuellement une petite sieste avant de reprendre son travail à 20h, 20h, 21h.
Bah pour ceux qui se lèvent tôt comme moi à 4 heures du mat, vous faites votre sport quand vous pouvez, quoi, mais plutôt vers 15-16 heures.
Oui, c'est ça.
Mais comme on se couche à 20h, c'est pas trop tard?
Non, 15-16 heures, c'est parfait.
Bon, voilà, génial. Alors, vous avez parlé des boissons tout à l'heure. Est-ce qu'on privilégie toujours l'eau? Ça, on l'a compris. Mais est-ce qu'il y en a une qui est plus recommandée si on fait du sport? Parce qu'on en voit certaines enrichies en minéraux, par exemple. Est-ce que ça, c'est une bonne idée?
Oui, alors, la meilleure de toutes les eaux, de toutes les boissons, c'est l'eau. Ça, parce qu'elle hydrate parfaitement. Maintenant, quand on fait du sport sur moins d'une heure, on a besoin que d'eau. Quand on fait du sport sur plus d'une heure et un niveau d'intensité important, à ce moment-là, l'eau doit contenir autre chose. Ah. En l'occurrence, du sucre, du glucose, du fructose, des maltodextrines.
Des électrolytes, non, peut-être aussi?
Oui, j'y arrive. Du sel pour compenser la sueur de le sel de la sueur. Pourquoi pas des vitamines? Dans ce cas-là, moi, je conseille, quand on veut la faire soi-même, de mettre 4-5 cm de sirop dans sa bouteille, de remplir avec un litre d'eau, de mettre une pincée de sel et ensuite un comprimé effervescent de vitamines. Ça, c'est parfait, ça coûte pas cher. Maintenant, sur le marché, il existe des boissons réglementaires qui sont des boissons du sport qui doivent obligatoirement contenir une certaine quantité de sucre. Il ne faut pas en avoir trop et pas non plus insuffisamment. Il y a également du sel dedans. Il y a de la vitamine B1 parce que c'est elle qui transforme en énergie le glucose de la boisson. Et certaines marques peuvent rajouter du calcium, du magnésium, etc. On a le choix. Mais elles sont réglementaires. Et ça n'est pas à confondre avec les boissons énergisantes qui sont plus excitantes qu'autre chose, qui se rapprochent des sodas, qui sont beaucoup trop sucrées.
Ça, c'est même pas... On oublie, hein, qu'on soit pour le sport et pour
pendant
le reste.
Pendant une séance de sport, on oublie complètement. C'est pétillant, donc c'est extrêmement désagréable. Ça peut donner des nausées, des éructations. C'est beaucoup trop sucré et c'est très excitant. Il y a beaucoup de caféine et c'est pas bon pour le cœur.
Eh bien, merci beaucoup Laurence. Et rappelons aussi que toutes ces informations sont accessibles sur le site institutionnel napso-therapie.org. Allez, vous l'avez compris, à vos baskets. Merci encore Mélanie. On passe à quoi à présent?
Alors Julia, on va accueillir un duo de bienfaiteurs d'Europe 1. Eux aussi sont dans l'ambiance sportive ce matin au micro. Il y aura Édouard Dutour qui va nous expliquer comment le sport agit sur notre cerveau et peut même nous rendre plus intelligents. Ah oui. Et puis il va y avoir aussi les conseils beauté de Maud Ravier. Comment rester beau et belle et frais même quand on se dépense en extérieur? La réponse dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Et nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. Maud Ravier d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans votre chronique tout à l'heure, on va suer, on va transpirer, se bouger, mais sans que ça se voit. En restant resplendissant et resplendissant.
Oui, on reste belle à toute épreuve.
Belle et beau,
évidemment.
Hein, on est pas
belle et beau, voilà, évidemment.
Les hommes aussi font beaucoup.
Exactement. Bah. Merci Maud.
J'ai faire du sport en couple, j'ai toujours peur d'être trop moche à côté de l'autre.
Bah, justement, vous aurez toute la solution grâce à Maud Ravier dans quelques instants. Juste après vous avoir justement écouté, cher Édouard Dutour, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à tous et bonjour au public de Roland-Garros.
Exactement, et puis quelle émeute hein, devant notre studio.
Les auditeurs d'Europe 1 qui sont devant nous, effectivement. Voilà.
Ça fait plaisir. D'après ce que je comprends, notre déloc à Roland-Garros risque de nous rendre plus intelligents, je vois
tout
pas
à
le
fait,
rapport.
Tout à fait, c'est le challenge du jour, c'est est-ce que le sport pourrait peut-être par hasard, mais c'est plus un hasard, c'est scientifique, booster aussi notre cerveau. Alors c'est vrai que on sait déjà que pour en plus de se tonifier le corps et le cœur, certaines activités sportives rendraient plus intelligent. On connaît les bienfaits du sport pour la santé, pour le moral, pour l'impact positif aussi sur le cerveau, mais encore plus que ça aujourd'hui, il y a de la nouveauté, c'est qu'il y a certaines études scientifiques qui prouvent que plus une activité sportive comporte de stimulation et d'interaction, plus ses effets sur le cerveau seraient bénéfiques. Pour vous le dire encore plus simplement, on a découvert que courir dans la forêt avec des autres était bien plus bénéfique que courir seul, en salle sur un tapis. Mais alors, il faut diversifier les mouvements et l'interaction.
Mais concrètement, Édouard, c'est quoi le programme si on veut se muscler du cerveau alors ?
Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut créer de nouvelles connexions neuronales. Très simplement, je vais vous donner un exemple. Il y a des chercheurs qui ont demandé à des personnes de plus de 65 ans de se mettre au sport à raison de 2 fois 90 minutes par semaine pendant 3 mois. Mmh. Dans le premier groupe, les partisans faisaient toujours la même chorégraphie, les mêmes exercices très répétitifs. Dans le deuxième groupe, eh bien, ils faisaient des chorégraphies différentes à chaque cours, notamment de la danse, on y reviendra après. Eh bien, l'intensité physique était la même pour les deux groupes, mais à l'issue du test, chez les premiers, l'augmentation du taux de facteur de croissance neuronale était flagrante, alors que ceux qui faisaient toujours les mêmes gestes, eh bien, c'était beaucoup plus faible.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc déjà, il faut diversifier pour muscler les connexions neuronales.
Ok. Mais alors, concrètement, Édouard, c'est quoi le programme si on veut justement, je veux me muscler le cerveau?
Alors, contrairement à ce qu'on pense, dans le sport, c'est pas mal de rester un débutant. C'est la fameuse technique du beginner mindset. Ça veut dire un peu, voilà, l'esprit du débutant. En gros, c'est qu'en fait, quand on devient professionnel, quand on devient très bon dans une discipline, on fait souvent la même chose.
C'est vrai.
Le mec, il fait que de la muscu,
donc,
que de la piscine,
le cerveau.
Et ça stimule moins. Donc, il faut garder un esprit de débutant pour travailler et augmenter sa neuroplasticité. Parce que quand on démarre une discipline, bien évidemment, il faut changer ses habitudes.
On peut commencer un sport nouveau tous les jours.
Par exemple, on va muscler des muscles qu'on ne connaît pas, comme l'élévateur de la scapula. Vous le connaissez, l'élévateur de la scapula?
Il se trouve où, celui-là?
Eh bien, celui-ci. Eh bien, il se trouve au niveau de l'omoplate. Et il est souvent très tendu. Vous savez, quand on a un point là?
Oui.
Eh bien, si vous diversifiez les activités, vous allez muscler votre élévateur de la scapula.
Ok, ben merci.
Et votre cerveau, du coup.
Et ensuite, donc, ce sport permet d'améliorer la sensibilité du système nerveux et la coordination. Hein,
c'est oui, ça alors c'est vrai qu'on est, c'est pas rare, hein, même à l'âge adulte, d'avoir du mal à se coordonner. Ouais. Il y a des gens qui hésitent toujours entre la gauche et la droite, ou qui ont du mal à bouger les jambes et les bras en même temps, etc. etc. Et bien, ça signifie qu'on a une zone endormie dans notre cerveau. C'est quand même pas cool. Et bien, pour ça, il faut effectivement faire un sport qui est génial.
Est-ce que, pour le coup, parce que moi, j'ai entendu dire que le top, c'était la danse.
Mais c'est ça. Hein, vous avez raison, c'est la danse. Merci. Vous pratiquez la danse, les filles, vous, il y a 3 filles autour de moi.
Et moi, la Zumba.
Eh bien, en fait, il y a même des gens qui conseillent, des professionnels de santé qui conseillent d'essayer de danser dans l'obscurité pour un maximum de lâcher prise. Vous savez, c'est comme quand on est dans une boîte de nuit, mais sans les consommations avant, j'ai envie de dire. Et donc, quand vous dansez dans le noir, c'est génial. Et puis, la danse, c'est vrai, si on réfléchit bien, c'est quoi? C'est du fitness et de la coordination. Donc, on travaille plein d'enchaînements différents, les jambes, les bras et la mémoire. Donc, du coup, c'est là que ça va booster et que l'on devient plus intelligent, plus on danse la nuit.
Bon, on va dans la nuit, effectivement. En résumé, Édouard, quel sport faut-il pratiquer pour booster le cerveau? La danse, ok, mais il y en a d'autres?
Oui, il y en a d'autres, évidemment. Il y a les sports de combat, pardon, j'ai oublié de citer, qui sont très importants, parce que ça, c'est pour la confiance en soi, pour avoir confiance en nous, pour avoir pas peur de l'échec, pour être plus fort mentalement. Et les sports, évidemment, c'est danse, yoga, pilates, boxe et
Tennis.
Voilà, tennis.
Tennis, merci beaucoup Edouard pour cet éclairage sport et cerveau. On reste dans le sport à présent, mais surtout, on reste beau et belle, même quand on transpire. La promesse est belle, mais on attend les conseils, hein, Maud Ravier.
Eh oui, bien sûr. Souvent, la peau tiraille, il y a des rougeurs, la transpiration. Bon, bref, au sport, nous ne sommes vraiment pas au top de notre beauté. Mais il existe pourtant une tonne d'astuces pour garder une belle peau. Donc, je vais vous donner ça tout de suite.
Et dites-moi, est-ce que on a le droit, comme moi, par exemple, de toujours être un peu maquillée? Est-ce que ça, c'est pas contre-indiqué? Par exemple, si on m'invite à un match de tennis, je vais quand même pas mal transpirer. Oui. Est-ce que c'est bon pour la peau, ça?
Risque de tout couler, quoi.
Tout à fait. Alors, l'association.
Déjà, je mets du waterproof.
Ah oui. L'association sport et maquillage est vraiment déconseillée par les dermatologues, tout simplement parce qu'on transpire. Votre peau va davantage absorber les produits qui se trouvent sur elle. Et n'oublions pas que la peau respire. Donc, avec l'effort, les pores se dilatent. Et une fois que ça va se refermer, ça va encapsuler tout ce qui est fond de teint, etc. Donc, là, ce sont les points noirs, les boutons et les imperfections qui sont à peu près assurés.
Attendez Maud, là je suis déjà rouge, transpirante, pas maquillée, oui. On peut pas mettre un petit quelque chose quand même pour avoir un petit peu bon.
Alors si vous faites des sports à l'extérieur, moi je vous conseille d'utiliser des crèmes avec indice. Vous avez des très très belles bébé crèmes avec indice et qui sont teintées. Et puis pour celles qui font des sports à l'intérieur, vous pouvez aussi utiliser des crèmes spéciales rougeur. Donc ce sont des bases vertes, je vous le rappelle. Le vert va entre guillemets endormir les couleurs rouges et du coup vous n'allez pas ressembler à un espèce de voilà.
Donc, vert sur rouge, ça fait un teint correct, quoi.
Exactement.
C'est ça.
Je okay. vous conseille deux.
Rouge, rien ne bouge.
Voilà, rien ne bouge, exactement. Voilà.
La crème L'Oréal Magic Skin, c'est la bébé crème verte. Et sinon, la Clinique Redness, elle a un indice de 15. Donc pour les sports en extérieur, c'est exceptionnel. Vous pouvez y aller.
L'aveu.
Ah, et maquille ses yeux, on en parlait avant. Est-ce que ça, c'est avant le sport, il faut vraiment éviter ou on a le droit?
Bon, on a le droit, mais évidemment, si vous choisissez de mettre un eyeliner ou un fard à paupières, vous allez vite ressembler à Joker dans Batman. Donc, je vous conseille vraiment les mascaras, évidemment, waterproof.
Mais moi, je ne peux pas imaginer, Maud Ravier, je vous connais, vous êtes tellement coquette. Quand vous faites du sport vous...
Non, je ne peux pas. Je ne sais pas ne pas me maquiller, au moins un tout petit peu, une
Est-ce
petite
que vous
base,
faites
un bébé crème.
Le contour de l'œil, vous le faites ou pas?
Alors, je le fais, mais avec des produits qui restent 24 heures ou waterproof. Sinon, la meilleure des solutions, rehaussement, teinture de cils, et là vous pas êtes mal. À peu près sûr de toujours être au top.
Je suis au bord d'un cil rehaussé,
oui,
moi là.
Mais vous savez, c'est pas pareil la teinture des cils. Moi je trouve que ça, je sais pas ce que vous en pensez, Mélanie, mais ça fournit pas autant qu'un vrai mascara.
Ça fournit pas. Sinon vous avez les extensions de cils, mais là on est vraiment dans la coquette. Mais
là en fait, vous n'avez pas envie de faire du sport, vous avez envie d'être juste jolie, quoi.
Je pense aux gens qui veulent faire du sport.
et qui veulent être au top.
Et voilà. Pour les lèvres, qu'est-ce qu'on fait? Un beau rouge à lèvres rouge.
Non, ça c'est hyper ringard. Moi je trouve que quand on fait du sport, il faut être aussi dans le naturel. Ah il faut avoir la petite queue de cheval qui se balade. Oui. Et puis, il faut avoir l'effet juste un peu teinté sur la lèvre. Il faut quand même rester dans le naturel.
Mais quand on transpire de la tête, parce que quand on fait du sport, ça peut arriver, effectivement.
Du cheveu.
Alors, on met des barrettes pour ne pas ressembler à un petit chien mouillé.
Voilà, c'est ça, les petits chiens mouillés. J'ai l'image, là. Donc, moi, je vous conseille les gros bandeaux, mais pas les gros bandeaux fluo à la Véronique et Davina. Maintenant, il y a des très, très beaux accessoires. Je vous conseille d'aller regarder le site Lululemon, qui ont une collection de dingues avec des couleurs et des tissus. Des matières différentes. Et bien sûr, vous devez faire attention car quand vous retournez le bandeau, il doit y avoir un petit lien en caoutchouc, un peu comme les soutiens-gorge en bretelles. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne bouge pas et au moins vous êtes au top.
Là, je suis en train de regarder.
Là, je regardais en direct.
Mais là, qu'est-ce que vous pensez des casquettes? C'est pas mal. Moi, je trouve qu'elles ont la classe, les filles sur le central.
Elles ont la classe, mais du coup, si elles veulent faire des photos et des choses comme ça, c'est difficile qu'on voit bien leur visage, ça dépend. Mais après, quand on n'est pas médiatisé, évidemment, on peut faire la fameuse, casquette-mont.
Elles sont surtout là pour jouer au tennis.
Oui, c'est ça.
On est d'accord. Instagrammeuse.
Quoi qu'il y a des très très jolies filles. Vous avez vu les tennis women là
On les regarde en direct de Roland Garros, Europe 1 radio officielle, et elles sont splendides, hein, franchement.
Mais oui.
En fait, c'est ça que j'ai pas compris. Il faut sortir la queue de cheval de la casquette. Moi, ça me l'écrase. Il y a un trou, c'est ça.
Oui, il y a le trou.
On est en train de vous donner des conseils vraiment essentiels sur Europe 1. Merci beaucoup, Maud. En tout cas, merci également à vous, Edouard. On se retrouve très prochainement dans l'émission. Merci à vous, auditeurs d'Europe 1, d'avoir été à l'écoute de bien fait pour vous et vous aussi, auditeurs d'Europe 1 en direct de Roland-Garros, d'être venu nous faire un petit coucou. J'espère que cette émission vous a fait autant de bien qu'à nous. On remettra le couvert demain, Julia. Oui. Il y aura quoi au programme?
Eh bien, coup de projecteur demain sur la maladie de peau qui touche le plus de personnes en France, plus de 2 millions de patients. J'ai nommé l'eczéma. Comment reconnaître cette pathologie? Qu'est-ce qui cause l'eczéma, notamment chez les nombreux enfants concernés? Et surtout, comment le traiter efficacement? Car aujourd'hui, c'est possible et on va tout vous expliquer.
Voilà, maintenant on va céder la place à l'info sur Europe 1, car Romain Desarbres vient d'arriver dans ce studio en direct de Roland-Garros. Europe 1 Midi va démarrer, qu'est-ce que vous avez de bon au programme ?
Dans Europe 1 Midi, on va parler du manque de main-d'œuvre en France. Il manque 15 000 personnes pour ramasser les légumes en France. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On sera avec un représentant de la profession. Est-ce qu'il y a un problème d'incitation au travail ? Est-ce que, par exemple, des personnes qui sont au RSA pourraient être incitées à répondre aux annonces ? On va en parler. 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir, évidemment. Et puis on est toujours en direct de Roland-Garros, en direct du studio Europe 1 à Roland-Garros, radio officielle Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et on sera avec Stéphane Houdet. Alors Stéphane Houdet, c'est un joueur de tennis professionnel. C'est un très grand champion français, vainqueur de 23 titres du Grand Chelem et multimédaillé olympique. Il est joueur de tennis professionnel en fauteuil roulant. Il va nous raconter son sport. Il a 52 ans. Il va faire Roland-Garros cette année. Il sera avec nous dans Europe 1 Midi. Voilà le programme, à tout à l'heure.
Merci.
À tout de suite.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.